CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h pour cette 74e émission déjà de Radio VCE. Exceptionnellement, et comme ça a pu arriver de temps en temps, c'est moi, Jonathan Bord, qui suis à l'animation cette semaine, en remplacement au pied et point levé de Jonathan Denuy.
Surtout point levé.
Peut-être. Aujourd'hui, autour de la table, vont nous accompagner Monique. De quoi vas-tu nous parler pour ta chronique du quotidien?
Alors, pour cette chronique, je reçois à nouveau, avec beaucoup de plaisir, Jean-Claude Denard, qui est référent forêt, chargé de mission forêt pour Chaville Environnement. Et il nous parlera, nous parlerons ensemble des lois forêt qui viennent d'être déposées.
Très bien. Alain de Frémont, ensuite, pour sa rubrique culturelle, je crois qu'on va parler de l'actualité locale.
Actualité locale, oui. Deux très belles pièces à l'Atrium dans le courant du mois de mars.
Parfait. Et enfin, Monique, à nouveau, là, cette fois, exceptionnellement, tu as un deuxième invité cette semaine. De qui s'agit-il?
Alors, c'est un entretien avec Gary Libaud, qui est un des rédacteurs du journal Le Chiffon et qui nous présentera son journal.
Eh bien, parfait. Radio VCE, c'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Eh bien, rebonjour Jean-Claude.
Bonjour Monique.
Alors, on se revoit aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau. Des députés de 8 partis politiques différents ont rédigé des propositions de loi pour améliorer la politique forestière et encadrer enfin les coupes rases. Deux propositions de loi sur la forêt en 2 mois. C'est important et sans doute le signe d'une prise de conscience de l'importance des forêts dans l'environnement et de leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. La première proposition a été déposée par des députés de la France Insoumise, du Modem, de ELV, de Horizon, du PS et de Liberté et Territoires. La deuxième vient d'être déposée par des députés Renaissance, Modem, Horizon et LR. Cette proposition de loi déposée par Madame Sophie Panonacle, députée Renaissance de la 8e circonscription de Gironde, et pour laquelle notre députée à nous de notre circonscription 92-08, Virginie Lanlot, a déposé un amendement dont nous reparlerons tout à l'heure. L'association Canopée appelle les citoyennes et les citoyens à faire entendre leur voix pour soutenir ces propositions de loi qui sont menacées par les lobbies de la filière bois qui, eux, ont intérêt à ce que rien ne change. Est-ce que tu peux, Jean-Claude, nous présenter Canopée et son action?
Oui, Canopée est une très forte association, en fait, qui n'a que seulement 5 ans d'âge. Mais en 5 ans, ils ont fait beaucoup de travail. Ils ne sont pas spécialisés sur les forêts d'Île-de-France, mais ils font attention, ils combattent la déforestation dans le monde, ils agissent pour des lois européennes et des lois nationales qui favorisent les forêts et qui évitent la déforestation. Par exemple, côté Total, ils ont évité la construction d'une usine Total qui devait faire du biocarburant à partir de l'huile de palme. Et ça, c'est un gros truc qui est international, puisque c'est une déforestation de forêt tropicale. Ils agissent aussi beaucoup sur les lois européennes et sur les lois françaises. Et c'est, je pense qu'ils sont à l'origine de ces deux projets de loi. Et c'est eux qui ont poussé là-dessus, en tout cas, c'est ce que je me suis laissé dire. Il y a une chose qui est assez importante en France, c'est la filière forêt-bois. Les gros gestionnaires privés comme Alliance Forêt-Bois font de l'exploitation rentable à court terme, ce qui détruit la forêt, évidemment, à long terme. Mais quand on s'en apercevra, ce sera trop tard. Mais pas que Alliance Forêt-Bois. L'État, dans les forêts domaniales, puisque c'est l'État qui est propriétaire des forêts domaniales, l'État exploite au maximum les forêts domaniales d'Île-de-France. Et c'est de ça qu'on s'occupe ici beaucoup à Chaville. Et par exemple, les forêts domaniales sont très exploitées. Enfin, j'en parlerai plus tard, peut-être tout à l'heure.
Alors, donc, pourtant, si cette loi est très importante, donc en particulier pour l'encadrement des coupes rases, elle ne prend pas en compte la spécificité des forêts d'Île-de-France, hein, c'est de ça dont tu vas parler, où il y a beaucoup de forêts urbaines, telles que les nôtres, là, celle de Meudon et celle de Fausse-Repose.
Oui, la spécificité de l'Île-de-France, c'est qu'il y a 12 millions d'habitants, c'est-à-dire près de 20% de la population française, avec seulement 1,7% de la superficie de la région couverte de forêts. Mais dans ces 1,7%, en fait, il y a seulement un tiers qui sont des forêts publiques. Dans ce tiers, il y a encore un tiers qui sont à peu près, je pense, qui sont des forêts domaniales, ce qui n'y a pas beaucoup. Ça ne fait pas grand-chose à l'échelle de la France, les forêts domaniales. Ça fait 1 pour 1000 ou 2 pour 1000 des forêts françaises. La forêt de Meudon, par exemple, c'est la plus proche de Paris, à 4 km seulement. Elle reçoit 4 millions de visites par an pour 1000 hectares. Ça nous fait 4000 visites par an à l'hectare. C'est 5 fois plus que la forêt de Fontainebleau. Elle a plus de visites, mais beaucoup plus de superficie. Alors effectivement, Madame la députée Lanlot a déposé un amendement qui correspond à ce que l'on veut en Île-de-France. Dans les zones, alors l'amendement est écrit de cette façon, dans les zones fortement urbanisées, il convient plus spécifiquement que les pratiques de gestion prennent pleinement en considération le rôle particulier joué par la forêt en matière de protection de la santé et de la qualité de vie des habitants des villes et de leur périphérie. En effet, les forêts périurbaines fournissent des services écosystémiques essentiels, tels que la purification de l'air par l'absorption qu'elles permettent du dioxyde de carbone, des particules fines et du dioxyde d'azote, fortement concentrés dans les zones urbaines et périurbaines. La recharge des nappes phréatiques, nécessaires à l'approvisionnement en eau potable des villes, et agissant comme des zones tampons entre les zones urbanisées et les sources d'eau souterraines, et l'accès à des lieux naturels de vie, de détente et de loisirs précieux dans un contexte de raréfaction de l'expérience de nature dans les grandes agglomérations. Alors là, c'est ce que l'on veut. Mais là encore, que fait l'État, qui est le propriétaire des forêts domaniales et dont l'objectif actuel est absolument de ne pas réduire l'exploitation malgré l'augmentation de la mortalité des forêts et la diminution de l'accroissement de la production de bois naturel des forêts.
Alors, que faudrait-il qu'il y ait en plus de ces amendements pour répondre à la demande et aux besoins de la population ?
Il faut que l'État prenne en compte les spécificités de l'Île-de-France qui sont largement explicitées dans l'amendement. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit, 12 millions d'habitants pour 1,7% de forêts. L'État délègue à l'ONF la gestion de ces forêts. Et il lui donne 3 missions en Île-de-France. Il faut savoir ça. L'ONF et l'État disent que la mission prioritaire, c'est la fonction sociale qui répond aux besoins du public. La demande du public, ce sont des forêts naturelles, des paysages reposants pour se ressourcer, respirer. C'est le poumon vert de l'Île-de-France. Et les habitants en ont besoin. Ils sont exposés à beaucoup de
stress.
Beaucoup de stress, de béton, de goudron. Et ils ont besoin de verre et de forêt. Et puis, l'ONF, en second lieu, doit préserver la biodiversité forestière et ses écosystèmes forestiers. La biodiversité provient de l'écosystème forestier. Et seulement, troisième position, pour l'Île-de-France, je parle bien toujours, l'exploitation commerciale. D'ailleurs, l'exploitation commerciale, c'est peanuts. Par exemple, la forêt de Fausse-Repose, 631 hectares, l'ONF veut faire 3000 mètres cubes par an, en moyenne à 50 euros le mètre cube. Alors, vous vous rendez compte aussi que 50 euros le mètre cube, quand vous avez votre table de salle à manger en chêne qui pèse seulement 50 kilos ou 100 kilos, que vous la payez 2000 euros, le mètre cube, c'est 50 euros la vente. Où est la valeur ajoutée ? La valeur ajoutée n'est absolument pas dans le bois.
En pratique, tu disais que finalement, à part le budget pour l'exploitation commerciale, les deux autres missions n'ont pas de budget.
Oui, et d'ailleurs, du fait qu'il n'y ait pas de budget, l'ONF ne peut pas vraiment assurer sa mission de... Alors, la mission de fonction sociale, l'ONF est aidée, parce que je parle ici des forêts domaniales, l'ONF est aidée par les communes, par le département dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, et d'ailleurs récemment, parce qu'avant, il n'y avait pas d'aide du département. Mais donc, il y a de l'aide, mais ce n'est pas de l'aide du propriétaire de la forêt. Et puis, il y a une autre... l'autre fonction où il n'y a pas d'aide, c'est la biodiversité, la fonction écologique. Et là, par exemple, en ce moment, notre association, on a dû payer une étude d'un herpétologue, ce sont des spécialistes des batraciens, pour montrer à l'ONF quelque chose qu'ils savent, qu'il y a des crapauds autour de l'étang d'Ursine dans la forêt de Meudon. Et puis quelque chose qu'ils savent aussi, que des engins de 12 ou de 24 tonnes sur un crapaud qui est enterré, le crapaud ne sortira jamais, il va mourir.
Il va être écrabouillé.
Et en ce moment, donc même pendant la période de migration nuptiale des crapauds dans l'étang d'Ursine, il y a l'ouverture de chemins d'exploitation avec des engins de 12 tonnes. C'est l'industrialisation de l'exploitation de la forêt. Donc là encore, on ne tient pas compte. Et ce n'est pas financé, c'est nous qui devons financer quelque chose pour avertir l'ONF qu'il sait. Alors les crapauds sont une espèce protégée, comme presque tous les batraciens. Donc ça fait partie de la mission de l'ONF et ils n'en tiennent pas compte. Pour le curé des mares, par exemple, eh bien, j'avais posé la question dans une visite à la forêt de Sénart et j'ai demandé d'où venait le budget pour faire le curage de cette mare. Et on m'a dit, on a trouvé une société qui nous a alloué des crédits. C'est l'État qui est le propriétaire de la forêt qui doit payer.
Oui, en gros, l'État, propriétaire de ces forêts domaniales, doit financer directement ou indirectement les trois missions qu'il confie à l'ONF sans lui donner le moyen de, effectivement, faire face aux trois missions. La multifonctionnalité, elle n'est pas assumée.
Oui, il n'y a pas de multifonctionnalité. L'État ne doit pas déléguer à l'ONF la mission d'aller chercher de l'argent pour ses missions.
Oui, absolument. Alors, concrètement, que faudrait-il qu'il y ait dans la loi ou dans les amendements par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, tu as lu l'amendement proposé par Virginie Lanlot, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour qu'effectivement la loi oblige l'État à répondre à ses fonctions, à cette multifonctionnalité vis-à-vis de l'ONF?
Le point principal, c'est l'exploitation. Plus on a d'exploitation, moins on a de biodiversité. Il n'y a pas de... Ça, c'est clair. Plus il y a d'exploitation, et moins les personnes qui vont se promener en forêt, au lieu de se ressourcer et d'avoir un paysage paisible, eh bien, ils s'inquiètent. Et c'est stressant de voir toutes ces coupes de bois. Il faut réduire l'exploitation de ces forêts domaniales. Au lieu d'être exploité à 100-115%, il ne faut pas dépasser les 50, mais il faut même aller à 10 ou 20%. Il y a un curseur entre les trois missions. Le curseur, en ce moment, est complètement sur l'exploitation. Ce curseur doit se remettre sur les valeurs sociétales. L'État doit s'occuper de la société, c'est sa fonction aussi. Donc le curseur, il doit être mis sur la fonction sociale et la biodiversité. Et évidemment... Il faut parler quand même de la COP sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il faut respecter les accords de Paris et pas faire semblant.
Oui, tu disais quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu disais que si on divise par deux l'exploitation des forêts, donc de 1 millième, ça n'aurait aucune incidence. C'est insignifiant sur le plan financier, alors qu'effectivement, par contre, les bienfaits de tout ce qui est non marchand, là, c'est extrêmement important, que ce soit sur la santé, tu parlais de santé,
oui, alors,
mentale et physique, que ce soit sur
au moins diviser par deux l'exploitation des forêts domaniales, ce qui est un peu plus qu'un dixième des forêts d'Île-de-France. C'est peanuts, oui, parce que la récolte, c'est 1 millième des forêts françaises. Donc, ça n'a aucune incidence sur le budget de la France. Et c'est pourtant le ministère des Finances et de l'Agriculture qui pousse à cette surexploitation. Alors que les bienfaits non marchands sont très importants. Quand on parle de la priorité pour la santé des habitants, il s'agit ici de santé mentale et physique. La filtration de l'air et de l'eau, l'amélioration de la biodiversité forestière, qui actuellement s'effondre. Alors elle s'effondre pourquoi ? À cause principalement de l'exploitation de la forêt, alors qu'on vous fait croire que c'est à cause du réchauffement climatique principalement. Alors effectivement, le réchauffement climatique joue sur cet écroulement, d'effondrement de la biodiversité. Mais ce qui joue le plus, c'est quand même la surexploitation. Même chose pour le puits de carbone. On vous dit que oui, le puits de carbone, c'est à cause de la mortalité de la forêt qui a augmenté et à cause du réchauffement climatique. Mais le puits de carbone, il dépend de l'exploitation surtout. Donc là aussi, c'est de l'enfumage quand même. Hein. Et pour la recharge des nappes phréatiques, ça c'est pas beaucoup connu, les forêts font pleuvoir. Et celles qui ont un couvert haut et continu retiennent l'eau très longtemps en période de sécheresse et rechargent les nappes phréatiques. Il faut se dire que le réchauffement climatique en Île-de-France ne change pas la pluviosité annuelle de l'Île-de-France. Par contre, les sécheresses d'été sont amplifiées. Une forêt qui a une canopée bien serrée attire l'eau, attire la pluie. Une forêt fait pleuvoir. Ensuite, la pluie, elle tombe au sol. Mais si vous avez une forêt, la forêt qu'on nous promet pour faire pousser les chênes, elle est très aérée, eh bien pendant l'été, la canicule et la sécheresse, l'humidité du sol s'évapore. Par contre, si vous avez une canopée et un couvert continu, le sol, c'est de l'éponge. Le sol garde l'eau toute l'année, enfin en tout cas très longtemps, et permet aux arbres et de la forêt de résister et à l'écosystème forestier qui a besoin de l'humidité de survivre. Donc la canopée épaisse, c'est une survie de la forêt. Et si on veut que les forêts nous protègent, il nous faut les protéger. D'ailleurs, Victor Hugo a dit une chose qui me plaît beaucoup. Il dit « C'est une triste chose de penser que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. »
Bah oui, c'est une belle phrase pour terminer cet entretien. On va peut-être vous donner les coordonnées de Virginie Lanlot. Alors, de façon à ce que vous insistiez pour renforcer l'amendement qu'elle propose, le rendre plus précis, l'étayer sur le plan juridique pour qu'il soit vraiment efficace et insister aussi sur la protection de la biodiversité qui est absent de sa proposition d'amendement. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Claude ?
Oui, l'esprit de l'amendement de Virginie Lanlot est très bon. Par contre, la formulation, quand on dit « il convient », qu'est-ce que va faire l'État et l'ONF quand on lui dit « il convient » ? Ils vont dire « ben moi, nous, ça ne nous convient pas, donc on fait autrement ». Et donc, il faut vraiment quelque chose de contraignant. L'État, c'est le gouvernement. Les députés, c'est le pouvoir législatif. Il faut que le pouvoir législatif puisse contenir la prédation du gouvernement.
Donc, le mail de Virginie Lanlot, virginie.lanlot, L-A-N-L-O, @assemblée-du6national.fr. N'hésitez pas à lui faire entendre votre voix. Merci Jean-Claude.
Merci beaucoup Monique. Merci Jean-Claude Denard. On rappelle, chargé de mission forêt auprès de l'association Chaville Environnement. Il est permis de se rappeler aussi que Chaville Environnement avait lancé l'année dernière une pétition en ligne Sauvons la forêt de Meudon qui frôle maintenant les 60 000 signataires. Et donc on a un tissu associatif très vivant sur ces dossiers-là de la forêt urbaine. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Tout de suite, la rubrique bande-annonce de Alain de Frémont.
Avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. En mars, à l'Atrium, vous pourrez assister à une sorte de one-man show avec son dessus-dessous et à une grande pièce classique de Tchekhov, La Mouette.
Ah, mais alors qui fait son one-man show ?
Eh bien, seul sur une scène, André Dussolier vous propose un spectacle fait de textes qu'il aime, des textes de Guitry, Aragon, Dubillard, De Vos, Victor Hugo et tant d'autres. Une moisson de textes courts, dit de cette voix familière, avec une scénographie faite de vidéos très réussie. Tout en finesse, en subtilité, pleine d'humour, Dussolier saute d'un auteur à l'autre avec une sorte de fil rouge, l'envie de partager ce qu'il aime avec ceux qu'il aime, les spectateurs. Dussolier se met en scène tout seul et enchaîne en virtuose de la comédie et de la langue française des morceaux choisis de styles et d'époques différentes. Il se balade et nous balade dans sa galerie d'auteurs fétiches. On sent qu'il se fait plaisir et nous aussi. Ça s'appelle « Sens dessus-dessous » et c'est le vendredi 15 mars à 20h45 à l'Atrium.
Merci. Alors évidemment, tout autre registre que « La mouette » d'Anton Tchekhov.
Oui, suivez bien le résumé de la pièce car ce n'est pas toujours évident. « La mouette » est une pièce en quatre actes dont les trois premiers se déroulent dans une résidence située près d'un lac. C'est un condensé d'histoires de passion non partagées. Allons-y. Medvedenko, le maître d'école, est amoureux de Masha, la fille de l'intendant de la propriété. Masha, quant à elle, est amoureuse de Constantin Treplev, écrivain de son état, neveu du propriétaire. Il est le fils d'Arkadina, une actrice célèbre. Mais Constantin Treplev est amoureux de Nina, une jeune comédienne à qui il a écrit sa première pièce de théâtre. Mais Nina s'est amourachée de Trigorine, un homme de lettres renommé, plus âgé qu'elle, qui est l'amant d'Arkadina. Celle-ci se moque cruellement de l'œuvre théâtrale de son fils Constantin, dont elle ne reconnaîtra jamais le talent. Autour d'eux, on joue aux cartes, on dîne, on se chamaille, on se plaint, on philosophe. Tous aspirent à l'amour et à la reconnaissance. À l'acte 2, Treplev, l'écrivain, dépose au pied de Nina une mouette qu'il a eue, entre parenthèses, la bassesse de tuer. Il lui dit son désespoir d'homme et de fils mal aimé, son amertume d'écrivain raté et annonce son suicide. Cette mouette est le symbole de l'histoire de Nina qui, persuadée de sa vocation d'actrice, s'enfuit à Moscou avec Trigorine. Dans le dernier acte, qui se déroule 2 années plus tard, on apprend que Nina et Trigorine ont fini par se séparer après avoir vécu ensemble. Nina, malgré tous ses efforts, est restée une actrice de second rang, dévastée par sa relation avortée avec Trigorine. Masha, elle, s'est résolue à se marier avec Medvedenko, le maître d'école. Constantin Treplev, dont la carrière littéraire a capoté, tente une dernière fois de séduire Nina. Ses passions amoureuses contrariées, ô combien, accompagneront l'envol de la mouette le jeudi 21 mars à 20h45 à l'Atrium de Chaville.
Nous y serons. Merci beaucoup Alain. De manière générale, pour prendre les billets, la billetterie est en ligne sur www.atrium-chaville.fr et vous pouvez évidemment aussi les prendre sur place, il y a une billetterie à l'Atrium de Chaville. Tout de suite, Monique Couteau à nouveau pour son second invité.
Avec Diane Lafront.
Bonjour Gary, donc je reçois aujourd'hui Gary qui est rédacteur, un des rédacteurs du journal Le Chiffon. Gary, pouvez-vous nous parler de votre journal ? Depuis quand existe-t-il ? Combien de numéros publiés ? Quelle périodicité ? Comment êtes-vous organisé pour la rédaction ? Il y a le nombre de contributeurs, la distribution du journal et plus généralement peut-être, quel public est visé ?
Bonjour, merci de votre invitation pour commencer. Alors Le Chiffon, c'est un journal trimestriel, papier, je vais y revenir par la suite, de 20 pages, régional. On se veut le premier, le seul, hélas, journal francilien à l'échelle régionale à faire un travail journalistique indépendant. On va fêter avec la publication du 12e numéro début mars nos 3 ans d'existence. Le Chiffon est distribué dans une 50aine de lieux pour l'instant. Des librairies, des lieux amis, beaucoup dans Paris. L'idée, c'est quand même de s'élargir. On reste quand même un petit peu en banlieue, Saint-Denis, Fontenay-sous-Bois, Malakoff, Montrouge, etc. Mais voilà, on aimerait pouvoir créer un maillage de lieux de diffusion régional qui soit un petit peu plus satisfaisant. Donc c'est un trimestriel avec de l'enquête, du reportage, de l'illustration, beaucoup. Et on essaie de faire un travail de fond en travaillant sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, nos sujets, avec des formats assez exigeants à certains égards, pour défendre une vision qu'on pourrait dire d'écologie proche de la décroissance ou d'une pensée technocritique. C'est-à-dire que, selon nous, il faut questionner ce qui est présenté ou ce qu'on se présente soi-même comme le progrès économique, le progrès technologique, le progrès culturel qui en serait le fruit. Voilà, on essaie de questionner tout ça comme une production jointe des États-nations, du capital et de la production scientifico-industrielle. Voilà, donc on s'inscrit dans une perspective critique qui est celle-ci, avec l'ambition de s'adresser tant que possible à des lecteurs pas forcément ciblés, délimités précisément. On a l'impression de s'adresser à des jeunes avec une mise en page qui peut un petit peu attirer, disons, avec des formats avec un petit peu de bande dessinée, avec des jeux, des choses comme ça, mais pas seulement. Voilà, on voit en manifestation, où on vend beaucoup, qu'on est en mesure d'aller chercher des personnes plus âgées, plus installées professionnellement aussi, etc., beaucoup. Et donc, pour répondre à la question, on diffuse le journal, pas seulement dans les lieux dont je vous ai parlé, on est aussi en manifestation, dans des festivals, etc., ou dans des présentations diverses qu'on référence généralement sur notre site internet, lechiffon.fr.
Vous ne m'avez pas dit combien vous êtes à peu près à travailler à la rédaction du journal.
Alors, on est un noyau de 6-8 personnes et on est une équipe, disons, par numéro. On est une quinzaine à peu près, avec 5-6 illustrateurs, illustratrices en plus. Et voilà, il y a du roulement. Il y a une équipe plutôt stable et puis il y a des gens qui nous rejoignent pour participer pour un papier qui leur tient à cœur, etc. Et puis qui peuvent reparticiper 6 mois, un an après. Le travail se fait à titre bénévole pour l'instant et donc on se veut quand même un journal participatif. Donc si les gens ont envie d'enquêter ou de soumettre une proposition dont on peut se saisir, c'est bienvenu.
D'accord, alors vous avez un peu évoqué que vous vouliez faire vivre une pensée technocritique et vous avez évoqué avec ça un certain nombre d'objectifs politiques. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ou donner quelques exemples de thèmes d'articles qui illustre cet aspect?
Oui, merci pour la question. Par exemple, dans le numéro 10, on a préparé un dossier sur la métropolisation, bétonisation, et on a fait une enquête sur la mise en place, la construction du plus grand centre de données, data center de France, pour l'instant, à La Courneuve. Et on essaie de montrer en quoi ce sont des infrastructures stratégiques dans le développement de l'informatisation de nos sociétés. Informatisation qui est pour nous un redéploiement de l'appareil industriel avec une explosion de l'extractivisme jamais connue jusqu'alors. Et donc, il y a une matérialité à cette numérisation de nos sociétés qu'il s'agit de montrer, de questionner et même de combattre. Donc ça peut être un exemple, cette enquête. Après, on est aussi intéressé par les questions agricoles. On a fait un papier sur le fonctionnement de Rungis, le plus grand marché de fruits et légumes du monde, et la manière dont sa construction à partir de la fin des années 50 ne pouvait que se faire comme une défense de l'agro-industrie et de la mondialisation agricole qu'il s'agit aujourd'hui de combattre. Voilà, donc on peut s'intéresser de manière critique à l'informatisation, à l'alimentation, à des sujets plus sociaux, sur les migrations, etc.
J'ai lu avec intérêt la naissance du syndicat de la presse Pas Pareil. Alors, est-ce que vous pouvez nous en informer de ce syndicat et quels sont les critères pour en faire partie? Si possible, donner quelques exemples de journaux.
Alors, le syndicat de la presse Pas Pareil existe de manière informelle depuis bientôt 4 ans. Son acte de fondation, c'est le 15 avril 2023. C'est un syndicat qui rassemble des médias, principalement papier, mais pas uniquement, alternatifs en France. Donc, on est une vingtaine de journaux, médias, cofondateurs. L'idée est double. Premièrement, être, que le syndicat soit une plateforme de revendication pour nos médias, parce que aujourd'hui, il y a un développement d'une partie de la presse alternative qui crée un écart, disons, par rapport à ce que nous sommes, à des fonctionnements plus bénévoles, même s'ils sont parfois en partie salariés, une précarité qui justifie la création du syndicat de la presse, pas pareil. Et le deuxième point, c'est qu'on puisse mettre en place des formes de mise en commun, d'outils, de services, pour se renforcer, peut-être faire des économies et participer à la création d'une toile nationale de la presse alternative qui, quand même, se redéveloppe depuis une quinzaine, vingtaine d'années, disons, malgré justement la numérisation, qui continue sa route, hein, c'est évident. Il se passe des choses, il y a un besoin de papier qui justifie ce syndicat. Et je complète un petit peu sur Le Chiffon. On a voulu lancer un journal papier comme une critique en acte de cette informatisation, hein, qui nous semble être un approfondissement de l'aliénation individuelle et sociale, sans doute majeure dans notre histoire.
Alors oui, je me posais la question si vous envisagiez éventuellement des feuilles communales locales. On en avait discuté l'autre jour et on se posait la question en se disant que ça pouvait être effectivement au niveau de la population intéressée quelque chose d'important d'avoir aussi quelques informations plus tournées vers les problèmes locaux. Enfin voilà, bon, c'était une question, mais effectivement c'est pas forcément facile à gérer. Hein,
alors oui, en effet, c'est une possibilité, une proposition. Nous, on ne fait pas donc de ce qu'on appelle du micro-local, on fait du local-régional, parce que, en effet, ce serait quelque chose qui pourrait être discuté, réfléchi, il faudrait voir si on ne pourrait pas faire des éditions, en effet, par département, ou je ne sais pas, on n'en est pas là, en tout cas, toute évidence. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'il y a une recomposition d'un certain nombre d'institutions à l'échelle régionale qui crée une pertinence éditoriale, qui crée le besoin d'un journal francilien, il nous semble. Je pense au Grand Paris Express, notamment, hein, qui nous semble le projet de transformation, destruction majeure sur la période 2010-2035, qui va donc créer un vaste réseau de métros, de 100 km, de tunnels, 180 km creusés sous terre, 70 nouvelles gares, 60 milliards d'euros. Pour l'instant, de budget, hein, ça fait x5 par rapport au coût initial, qui va en fait régionaliser la métropole parisienne pour qu'elle prétende pouvoir se maintenir en tant que ville-monde dans la mondialisation capitaliste, si vous voulez. Donc on veut aussi, c'est à ce niveau-là de compréhension aussi qu'on veut placer notre travail, et on se dit que localement, il existe quand même un certain nombre de feuilles locales. Je pense à La Page dans le 14e, je pense au 18 du mois, pour parler de Paris. Voilà, c'est à eux de se saisir aussi d'un certain nombre de sujets. Et nous, on est en lien cordiaux avec eux.
Bien, je crois qu'on a bien présenté pour cette première fois le Chiffon. Hein. On rappelle que le nom, c'est Le Chiffon, et que c'est le journal de Paname et de sa banlieue, effectivement, hein, qu'il y a des articles qui concernent toute la région Île-de-France. Alors, où trouver ce journal sur Chaville? Il y a deux lieux de distribution: Polygraphe, l'imprimerie qui est presque à la limite de Sèvres, le tabac, le Muguet, tabac journaux, le Muguet, près de la mairie qui le distribue. Je pense qu'il y a aussi des distributeurs individuels. On peut s'abonner, c'est une formule d'abonnement pour 4 numéros. Un an, c'est 18 euros. Soutien, si on peut, c'est 40. Et la formule fauchée, ben, c'est le prix libre. Hein, voilà. Donc, il faut envoyer un coupon d'abonnement avec vos noms, adresse postale, votre mail à Le Chiffon, 84 rue de Charenton, Paris 75012, en joignant un chèque, ou s'abonner via le site lechiffon en un seul mot.fr. Ou encore, envoyez un mail à le-8chiffon@risseup.net. Merci Gary.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gary. Sans vouloir déflorer la prochaine émission, je crois qu'on vous revoit la semaine prochaine et ça sera toujours avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les participants, les nombreux invités et chroniqueurs. On se retrouve donc dans une semaine. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À bientôt.